Pour évoquer le ciel de mai, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Davet. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Victor.
Donc comme d'habitude, les horaires du soleil et de la lune. Tout d'abord le soleil.
Alors le soleil se couche à peu près 8h30 le soir maintenant. Donc au 15 du mois de mai, donc voilà. Donc de nouveau, il faut observer le ciel, disons, à partir de 9h30, 10h moins quart, pour commencer à voir les étoiles de manière un petit peu plus simple. C'est clair qu'au couchant, c'est un peu plus difficile, mais on va d'abord voir les planètes, puis ensuite les étoiles.
Ça devient de plus en plus difficile d'observer le ciel, c'est ça?
Oui, parce que, c'est clair, la nuit se fait de plus en plus tard, et puis le soleil se lève aussi de plus en plus tôt. Donc c'est clair que dans les mois qui sont proches du mois de juin, on va avoir une nuit qui est très courte finalement.
Avec une lumière résiduelle quand même jusqu'à 22h.
Voilà, exactement. Pénombre. Et puis pour faire vraiment de l'astronomie, on parle de crépuscule astronomique, d'accord, lorsque le soleil il a une certaine distance en dessous de l'horizon. Et puis si on regarde sur une nuit complète en plein été, ce moment-là où il fait une nuit suffisante pour observer les étoiles vraiment, puis faire de la photo par exemple, c'est très court, c'est quelques heures seulement.
La Lune, de nouveau pleine Lune en début de mois.
Et oui, comme c'est tous ces derniers mois, donc on a ici la pleine Lune le 5 et puis la nouvelle Lune qui se passera autour du 19 du mois.
Donc c'est à cette période-là que...
Exactement, c'est autour du 19, là où on a une Lune qui va pas nous perturber. Plutôt, si on a un fin croissant au début de nuit, ça pose pas trop de problèmes, c'est même assez joli d'ailleurs, d'observer ce croissant de Lune au début, les 2, 3, 4 jours suivant la nouvelle lune. Puis après, cette petite lune va se coucher très rapidement, puis on peut observer le ciel. Donc c'est très agréable.
Au niveau des planètes ?
Alors au niveau des planètes, alors, toujours Mars, bien sûr, qui est visible en première partie de nuit. Vénus, visible également en première partie de nuit, donc sous forme d'un croissant. Et puis on a Saturne qui... On l'avait déjà évoqué pour le mois d'avril, qui revient le matin à l'aube aussi et qu'on pourra observer ces prochains temps. Et puis on parle aussi peut-être une fois aussi de ces planètes naines avec Cérès, qui est le plus gros astéroïde de la ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre Mars et Jupiter, qui a environ 1000 km de diamètre et que l'on peut aussi observer comme une petite étoile dans le ciel à peu près toute la nuit.
Donc je prends Vénus tout d'abord. Croissant, possible de le voir à l'œil nu, le croissant où on voit quand même toujours cette
Alors sphère. Non, on voit toujours un truc très, très brillant, mais par contre pour voir le croissant, il faut un petit instrument.
Paire de jumelles, stabilisée, même pas.
Paire de jumelles stabilisée, peut-être qu'on arrive à deviner que c'est pas un point en tout cas, c'est pas un disque.
Et puis donc Cérès, donc visible, ça fait 1000 km de diamètre, hein, c'est 12 fois plus petit que la Terre, donc si on prend la Terre comme si la Terre était un ballon de basket, j'imagine que Cérès est grand comme une bille, hein, quelque chose comme ça. Hein.
Ouais, tout à fait, à peu près, ouais.
Comment on peut voir cet objet ?
Alors, là, il faut évidemment se munir d'une petite carte. Ça, c'est compliqué de repérer l'objet, vu qu'il y a beaucoup d'étoiles dans son environnement qui sont à peu près de la même intensité lumineuse. Donc, il faut repérer sur une carte. On en trouve assez facilement sur Internet. Et puis, ensuite, comparer dans le ciel les étoiles et puis se dire, tiens, le petit point qui est là, en fait, c'est pas une étoile, c'est cette planète Cérès.
Cérès a été découverte en 1801. Un certain Giuseppe Piazzi. Le mouvement des planètes est un mouvement particulier. Pourquoi à l'époque, à l'Antiquité, on n'a pas découvert cet objet? Il a fallu attendre le 19e siècle. Question piège peut-être, mais...
Non, mais parce que simplement les planètes qu'on a découvertes dans l'Antiquité, c'était des planètes dont les diamètres étaient tels qu'ils étaient quand même beaucoup plus brillants que Cérès. Et donc, Cérès, il faut quand même avoir une certaine aide au niveau d'instruments d'optique pour vraiment s'assurer que c'est quelque chose qui existe bel et bien dans le ciel.
Vraiment aller chercher le point.
Voilà, tout à fait. Puis je sais pas, peut-être que certains anciens de l'Antiquité avaient peut-être remarqué qu'il y avait ce petit objet là qui se déplaçait peut-être. C'est possible, je dirais, ça n'a pas été transmis jusque chez nous, mais c'est censé être des dieux, donc a priori, s'il y a un dieu qui n'est pas très visible, c'est pas très intéressant pour eux.
Pour nos auditeurs, pour que nos auditeurs comprennent bien, en fait, les étoiles sont toujours fixes, hein, nuit après nuit, et puis les planètes, donc ces mouvements qui sont en rotation autour du Soleil, bougent nuit après nuit. C'est comme ça qu'on peut détecter si c'est une planète.
Exactement. D'ailleurs, le mot planété, ça signifie qui bouge, en fait, qui se déplace. Donc, c'est vraiment ce qui fait la grande différence entre effectivement ces objets, les planètes et puis les étoiles.
Planète naine, c'est un mot quand même qui est assez récent. À l'époque, on appelait ça astéroïde dans la ceinture d'astéroïdes.
Exactement. Et puis d'ailleurs, Pluton est également devenu une planète naine quand on a redéfini la notion de planète, ce qui est quelque chose qui n'était pas forcément très bien défini. Donc il y a trois choses qu'il faut connaître. Déjà, il faut savoir que c'est un objet qui tourne autour du Soleil. Premièrement. Deuxièmement, il faut que ça soit un objet qui soit suffisamment massif pour qu'il ait une forme plus ou moins sphérique quand même.
Donc c'est le cas de Cérès et Pluton.
Tout à fait. Et puis il y a un troisième critère en fait qui du coup va éjecter Pluton et Cérès de la liste des planètes, c'est que ça doit être un objet qui est suffisamment massif pour avoir finalement attiré ou repoussé tous les petits objets qui sont sur son orbite. Et comme Cérès est dans la ceinture d'astéroïdes, donc c'est un objet qui n'a pas été qui n'est pas considéré comme une planète parce qu'il y a dans son environnement encore plein de petits débris, de petites choses comme ça qui circulent avec lui. La même chose pour Pluton qui en fait fait partie des objets dits transneptuniens. Il y en a pas mal aussi dans son environnement et donc on les a finalement éliminés de la liste des planètes à cause de ça.
Pas réussi à faire le ménage, hein,
comme exactement. On dit. Pas réussi à faire le ménage sur son orbite.
Cérès a une orbite autour du Soleil plus ou moins circulaire, ce qui n'est pas le cas de Pluton, qui n'est même pas encore en plus dans le bon plan, qui est un petit peu décalé.
Voilà, exactement.
Et puis Pluton aussi intéressant, c'est cette mission en 2016, New Horizons.
Voilà, cette mission qui a un peu défrayé la chronique. Hein. C'est la première fois qu'on envoyait un objet aussi loin pour aller voyager dans le système de Pluton. Il y a eu quand même 9 ans de voyage, c'est quand même pas anodin. Donc on a dû construire un appareil qui était fiable, vraiment très très fiable. Il fallait pas qu'en cours de route, il y ait un instrument critique qui lâche. On a même endormi un peu cette sonde pendant plusieurs années durant son voyage pour être sûr que tout allait tenir correctement. Et puis on a eu une moisson scientifique assez intéressante en survolant Pluton, justement en 2016. On ne s'attendait pas à voir des choses comme ça en fait.
Là je m'adresse à l'astrophysicien. Quand on envoie une sonde sur Pluton, ils font comment ? Moi si je vais à Martigny, je prends une direction. Ça paraît complètement fou. Est-ce qu'il y a des simulations, il y a des calculs par rapport aux orbites pour donner le bon rendez-vous ? C'est comme ça.
Voilà, en fait, c'est assez compliqué. Donc, souvent, on utilise l'assistance gravitationnelle des autres planètes. On a des sondes qui peuvent partir, qui vont jusqu'à Mars, qui reviennent et qui repartent, qui reviennent vers la Terre et qui repartent. Et à chaque fois, elles gagnent en vitesse, puis d'un coup, bam, elle peut partir à la vitesse qu'on souhaite pour gagner du temps finalement. Donc, notamment, New Horizons avait passé à proximité de Jupiter, notamment, elle a survolé Jupiter, rien qu'avec cette connexion avec Jupiter, elle a gagné 4 km par seconde en vitesse grâce à cette assistance gravitationnelle. Donc, c'est tout à fait non négligeable et on l'utilise abondamment pour toutes ces sondes qui vont très loin.
Comment on fait pour les diriger à des centaines de millions de kilomètres, alors qu'on sait qu'en plus, il y a du délai, parce que pour aller jusqu'à Pluton, je ne sais plus, c'est 16 heures ou quelque chose comme ça.
Oui, tout à fait. Mais tout est prévu d'avance, tout est calculé d'avance. Et puis, les petites imperfections du calcul ou les petites imperfections dues au fait qu'on ne peut pas tout calculer avec autant de précision qu'on voudrait, ben, y a un petit peu de carburant quand même dans la sonde qui permet de faire des micro corrections de trajectoire. Donc...
Puis elle est aussi capable d'elle-même de se centrer par rapport aux étoiles et des repères qu'elle a. Hein.
Oui, effectivement, ouais, tout à fait. Bon, elle a des instruments scientifiques aussi qui doivent fonctionner avec de l'énergie. Étant donné que cette mission est très particulière, vu qu'elle va très très loin, les panneaux solaires ne suffisaient pas, donc on a aussi un isotope à l'intérieur qui permet d'avoir de l'énergie, entre guillemets, nucléaire, qui va permettre de faire fonctionner tout ça.
Au niveau des constellations, le Bouvier, Actarus...
Oui, alors le Bouvier est bien évidemment une constellation assez connue avec Arcturus, justement l'étoile principale.
C'est à voir quelque chose avec le dessin animé ?
Absolument, donc les noms des personnages de Goldorak, pour ceux qui s'en souviennent, sont tous des noms d'étoiles en fait. Hein. Peut-être légèrement un petit peu déformés comme Arcturus qui est devenu Actarus, mais sinon Mizar, Alcor, Procyon, si vous suivez l'émission depuis quelques mois, on a déjà croisé quelques-uns de ces noms.
M3, amas ouvert.
Oui, alors dans cette constellation, on a M3 qui est un amas ouvert assez intéressant à observer aux jumelles, qui est très joli.
Pour poignard d'étoiles, un amas ouvert, c'est juste.
Un amas ouvert d'étoiles, ça veut dire qu'on a quelques centaines d'étoiles qui sont là et qui sont nées en même temps, on en avait déjà causé, et qui vont gentiment se séparer dû à la rotation de l'objet, de ces objets autour du centre galactique.
La Vierge aussi.
La Vierge aussi, constellation du zodiaque, avec Spica. L'épi. Et puis, dire quand même quelque chose que à propos de cette constellation, il y a dans la Vierge un amas de galaxies. Et en fait, le centre de notre amas local se trouve dans cette direction-là. Également, le centre d'un amas de galaxies beaucoup plus grand. Donc, c'est en fait un super amas de galaxies qu'on peut observer en direction de la constellation de la Vierge. Alors, ce n'est pas des galaxies très faciles à observer. Certaines sont faciles, d'autres moins. Mais disons que là, on a potentiellement la capacité d'en voir beaucoup.
Notre galaxie appartient au super amas de la Vierge.
Exactement. Et notre galaxie appartient au groupe local et ensuite au super amas de la Vierge.
Voilà, on est très, 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 très loin. Les phénomènes astronomiques intéressants.
Alors, le 5, on a une éclipse partielle de Lune, mais c'est un phénomène là qui est très, très difficile à voir depuis Saint-Maurice. On préférerait être plutôt au nord de l'Afrique pour vraiment en profiter beaucoup plus. Mais peut-être qu'en théorie, on devrait être capable de voir une légère diminution de luminosité de la surface. Mais bon, c'était plutôt anecdotique que je le cite ici de manière un peu anecdotique.
Ça veut dire qu'au nord de l'Afrique, on verra donc c'est une éclipse complète.
Non, pas du tout. C'est aussi une éclipse partielle, mais enfin voilà, les éclipses partielles de Lune sont pas des phénomènes impressionnants puisque on voit une très faible en fait diminution de luminosité. Il faut vraiment une éclipse totale de Lune pour vraiment se dire ah ben tiens la Lune elle a beaucoup diminué en intensité.
De nouveau, des météores le 11, à chaque mois. Je pensais qu'il y avait qu'au mois d'août.
Ah ben voilà, donc on en a chaque mois, mais il peut y en avoir même plusieurs chaque mois, en fait, de ces essaims de d'astéroïdes. Ce sont des choses qui sont fréquentes. Et puis ici, on a l'essaim des états lyrides. On estime qu'il y en aura entre 5 et 10 par heure, donc c'est pas non plus quelque chose qui est tel que c'est pas l'essaim de météorites le plus impressionnant de la liste, disons.
Faites un vœu, regardez le ciel le 11. Le 16, un alignement Mars-Castor-Pollux.
Voilà, donc les deux étoiles de la constellation des Gémeaux dont on avait parlé le mois passé, avec un bel alignement avec Mars, effectivement. Donc ça vaut toujours la peine de voir ces alignements aux alentours de 23 heures. Vous pouvez voir ça à l'ouest.
Pollux qui est une immense géante rouge. Hein.
Oui, tout à fait, ouais.
Le 23 aussi, rapprochement Lune-Vénus.
Voilà, dernier événement intéressant, donc un rapprochement, une conjonction, comme on les appelle, entre la Lune et Vénus, à ne pas louper aux alentours de 21h.
Donc si vous n'avez jamais repéré Vénus, c'est le moment de regarder donc le 23, 21h, 22h, en direction de la Lune, et puis
exactement.
Il y aura un immense point très lumineux à côté, c'est Vénus.
Exactement, c'est ça.
Merci beaucoup Stéphane d'être venu.
Mais avec grand plaisir.
Et au mois prochain.
À la prochaine fois.